Alors c'est la philosophie maintenant. Il faut changer de vitesse. Toute la philosophie, toute notre recherche philosophique est tendue vers la découverte d'un être premier. Il faut bien comprendre cela. Et c'est ce qui n'existe plus du tout dans la pensée moderne. Il y a eu... ça fait déjà assez longtemps, puisque j'étais à Fribourg, un colloque à la maison dominicaine des éditions du CERF, une réunion de philosophes, théologiens, pour se demander quelle était la valeur des preuves de l'existence de Dieu que nous donnait saint Thomas. C'était vrai du temps de saint Thomas, mais c'est plus vrai pour nous. C'était comme ça. Ça a été traité aussi rapidement que cela. Comme si la métaphysique n'était vraie que pour le Moyen-Âge. Mais depuis, l'homme n'atteint plus la métaphysique. Mais la confusion constante du point de vue apologétique et du point de vue philosophique. Qu'au point de vue apologétique, les preuves que donne saint Thomas sont impossibles. Concedo. Qu'elles ne sont plus vraies, c'est à voir. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que l'intelligence humaine a changé? L'Église maintient, donc nous devons y croire, que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Vous nous rappelez ça, parce que si je ne peux pas atteindre Dieu, il n'y a pas de cours sur le gouvernement divin. Et le gouvernement divin, au point de vue philosophique, je peux en parler dans la mesure même où j'atteins Dieu. Et c'est... Il faut donc être très net là-dessus. Alors, confusion constante entre apologétique. L'apologétique, c'est très bien, mais ce n'est pas l'apologétique qui nous montre ce qu'il y a de plus profond dans l'intelligence. L'intelligence humaine n'est pas faite premièrement pour l'apologétique. L'apologétique est une rhétorique, une super rhétorique au service de la foi, au service de la théologie. Et l'apologétique... Un grand apôtre est toujours apologète. Mais on n'en fut pas sortir de l'apologétique une science. Ce n'est pas une science, c'est une rhétorique. L'apologétique, une super rhétorique. Parce qu'il s'agit de plaider la cause de Dieu. Donc c'est d'être... C'est la politique dans le sens de la rhétorique, dans le sens d'un avocat. Un avocat sans rhéteur. Et il veut prouver que la personne n'est pas coupable ou qu'elle est coupable de façon très diminuée. Et dans la politique, on plaide la cause de Dieu. Et on montre qu'on ne peut pas être homme vraiment sans affirmer l'existence de Dieu et sans pouvoir donc humainement atteindre la puissance de Dieu. Ça, il faut être très net là-dessus. Parce que l'apologétique, au début du siècle précédent, c'est-à-dire a joué un rôle très très important. Et je crois que l'apologétique est dangereuse aujourd'hui. On ne doit pas être des apologètes. Parce que ça ne colle plus, ça ne marche plus. On vous fout alors tout de suite des critiques. Donc, on doit être beaucoup plus philosophe à notre époque. Puisqu'on est dans un âge scientifique. Et dans cet âge scientifique, ce n'est pas l'apologétique qui marche. Il faut montrer qu'il existe une sagesse. Et qu'il existe une sagesse, que c'est le bien de l'intelligence. Et que mon intelligence humaine est faite pour cela. Pour connaître la personne humaine. Il ne faut surtout pas laisser la personne uniquement dans le domaine psychologique. Vous voyez, il y a eu, il faut le reconnaître, une déficience énorme de notre métaphysique, de notre philosophie, parce que nous étions scolastiques. Il faut le reconnaître, ça. Je crois que c'est très important. La scolastique a enfermé la philosophie dans la théologie, puisque la philosophie provenait de la théologie. Donc elle a enfermé la philosophie dans la théologie. Et la scolastique a continué sa route sans bouger du tout. Pendant ce temps-là, se développait la psychologie et se développait la recherche de la personne humaine. Donc, la recherche de la personne humaine s'est faite du côté psychologique. Et nous n'avons pas, au point de vue scolastique, un traité de la personne humaine. Et c'est pour cela que, revenant à Aristote, revenant à une philosophie pure et directe, indépendante de la théologie, et la philosophie doit être indépendante de la théologie, parce qu'elle est pour tout le monde, elle est pour tous les hommes. Revenant à une vraie philosophie réaliste, le problème de la personne humaine se pose avec beaucoup d'acuité. De sorte que je crois que le problème de l'existence de Dieu ne se pose plus, comme pour saint Thomas, comme pour Aristote, il se pose à partir de la personne humaine. Et c'est très important, ça. Vous voyez ? Alors, à cette rencontre de tous les philosophes, on a dit, aucune philosophie ne nous donne un argument sur l'existence de Dieu, sauf Kant. Ce petit livre-là doit être ici à la bibliothèque. Parce qu'il a donné le résultat de ses recherches. Et le résultat dernier, c'est que, sauf l'impératif catégorique de Kant, prouve l'existence de Dieu. Et c'est très intéressant pour donner le baromètre métaphysique de la recherche philosophique chez nos chers frères dominicains. Il n'y avait pas que des dominicains, il y avait de tous. Mais ils n'ont pas été capables de montrer que la métaphysique aboutissait à la personne et que la personne me met le plus proche possible de l'existence de Dieu. quand je vois le crapaud, est-ce que je vois le crapaud en disant tout de suite « Dieu existe » ? Le crapaud n'est pas la signature du Créateur. Heureusement. La signature du Créateur, c'est l'âme humaine spirituelle. Le crapaud me permettrait de dire, oui, c'est sûr, ça fait partie des vivants, et c'est un vivant particulier, mais ce n'est pas la signature du Créateur, elle n'est pas du tout dans le crapaud. C'est très important ça, parce qu'il y a encore des gens qui croient que la signature du Créateur est dans le crapaud, et que le crapaud me permet de dire que Dieu existe, pas du tout. Le crapaud permet de dire que dans un univers donné, il y a des causalités secondes qui aboutissent au crapaud. Que ça aboutit par un phénomène d'évolution, que ça aboutit par un autre phénomène, ça, on peut discuter, c'est très délicat. Parce qu'il y a évolution, mais on a exagéré. L'évolution n'explique pas tout. La grosse critique qu'on doit faire à l'évolution, c'est pas de critiquer l'évolution, c'est dire que l'évolution n'explique pas tout. L'évolution ne peut expliquer que des changements. Que des changements. L'évolution ne touche pas à la nature des choses, mais les propriétés, tout ce qu'on constate. C'est ça qu'on constate. Alors c'est sûr que l'évolution joue un rôle très important. On voit très bien que certaines bêtes extraordinaires qu'on retrouve dans les charbons n'existent plus. Je n'ai pas été présent au premier jour de la création. Ça devait être très intéressant. Certaines bêtes extraordinaires qui n'existe plus. Et on voit et on constate encore aujourd'hui la déperdition de certains animaux qui disparaissent. Alors comme on est dans un air où on garde beaucoup, on veut garder l'espèce. Alors on les transplante ces espèces et on les met sous la protection de l'homme. Alors l'homme devient le gardien de l'animal, de telle espèce, c'est son rôle, garder l'espèce animale, et il oublie Dieu. C'est très curieux, il faut comprendre ce changement de perspective. Quand la finalité n'est plus là, vous retombez sur la cause matérielle, et votre souci dominant, c'est de garder toutes les espèces animaux. Et vous avez ça, il y a des espèces de singes extraordinaires qu'il n'y a qu'en Amérique qu'ils existent, gardés par des petits fils d'hommes qui sont faits pour garder cet animal. Parce que c'est intéressant, je comprends très bien que c'est intéressant. Philosophiquement, c'est très intéressant de voir ces animaux qui n'existe plus que quelques échantillons exceptionnels. Ce sont des timbres extraordinaires, ça a existé. Et vous avez déjà remarqué en Afrique où on peut circuler et rencontrer des singes important, il n'y a rien qui les met plus en colère que de rire en face d'eux. J'ai fait plusieurs fois l'exemple, exprès. Parce qu'à l'égard des singes, on n'a pas à avoir la même délicatesse qu'à l'égard des hommes. Quand on voit un défaut chez un homme, on ne répète pas exprès pour le mettre en colère. Mais pour les singes, on a le droit. et en face de grands singes, de gros singes, quantitativement valable de l'homme, quantitativement, même poids, même taille, bien vous souriez, vous riez en face d'eux. Ils croient toujours qu'on rit d'eux. Et ils ne peuvent pas répondre par le rire. Donc il y a une infériorité terrible. On a une arme. Le propre de l'homme, c'est de sourire. Et c'est, je crois, c'est le propre de l'homme, le propre de l'enfant, c'est de sourire. Avant de parler. Et là, ils sont en retard. Parce qu'ils disent, le propre de l'homme, c'est de parler. D'où, ah, les singes, les grands singes, leur nom particulier, ils parlent. Ils ont un langage entre eux. Mais non, le propre de l'homme, c'est de sourire. Et c'est pour ça que la mère est avide de prendre le premier sourire de l'enfant. Et quand vous chipez le premier sourire de l'enfant devant la mère, elle n'est pas contente. Parce que vous avez eu la propriété de ce petit enfant qui pousse. Et les enfants sourient plus vite qu'avant. C'est très curieux. Ils sourient très vite maintenant. Parce que sans doute que les hommes mûrs sourient moins. Alors ça se rattrape du côté de l'enfant. Mais c'est le propre de l'homme, ça. Et vous le voyez tout de suite. Tant que vous pouvez parler en face d'un singe, ça n'inquiète pas du tout. Ça n'inquiète pas du tout, parce qu'il parle, lui, à son langage à lui. Et un langage moins conventionnel, plus naturel. Donc c'est assez extraordinaire. Mais alors, le rire, et ça montre bien que c'est le propre de l'homme. Ça, faites-le quand vous serez... Prenez vos distances, hein, parce qu'avoir une jupe de singe, c'est pas trop, pas très drôle. Il y va fort tout de suite. Alors, prenez vos distances. Alors, ils ont déclaré, ces professeurs de philosophie, que la seule preuve valable pour l'existence de Dieu, c'est l'impératif catégorique de Kant. Vous voyez, où en est la métaphysique ? C'est intéressant, aux portes des dominicains, gardiens de la vérité. Petit disciple de saint Thomas. Saint Thomas a dû bondir dans sa tombe. Alors, pourquoi dit-on ça? C'est parce qu'au fond, la philosophie, la métaphysique est restée à l'être, elle a raison de rester à l'être, mais pour prouver l'existence de Dieu, il faut regarder ce qui est créé directement par Dieu. Il n'y a que celui qui est créé directement par Dieu qui peut prouver l'existence de Dieu. Ce n'est pas celui qui provient des causes secondes. Parce que, comme effet, il se remontera à la cause seconde, et puis à la cause seconde, puis à la cause seconde, puis à la cause seconde. Donc, l'évolution. Tandis qu'au contraire, l'homme, l'âme humaine, la personne humaine met directement en cause l'âme. Votre âme, elle s'exprime dans votre personne. Elle ne s'exprime pas quand vous mangez. Non, du reste, ce serait curieux de regarder les âmes humaines. Vous voyez, quand on voit à table, regardez les frères qui mangent. Oh, comme ils ont une belle âme. Non, manger ne montre pas le signe de l'âme. Qu'est-ce qui montre le signe de l'âme? Est-ce la parole? Ah, la signification de la parole, mais pas la parole. Est-ce que le singe parle ? Je ne crois pas. Il ne parle pas, il n'y a pas de signification. Mais il fait des signes. Et c'est le signe qui a une signification particulière entre eux. Donc entre eux, ils ont un langage de signes. Le signe n'a pas de signification. C'est un appel. Alors, c'est la philosophie de la personne qui me met le plus proche possible de l'existence d'un être premier. Et je crois qu'il faudrait reprendre tout ce problème des preuves et l'existence de Dieu, de saint Thomas, les preuves et l'existence de Dieu dans saint Thomas, je crois que c'est un aspect critique, et non pas métaphysique, c'est un aspect critique, c'est l'aspect critique du théologien. Le théologien peut être critique de la philosophie, parce qu'il est supérieur à la philosophie. Donc, un des rôles du théologien, c'est de rappeler quelle philosophie peut prouver l'existence de Dieu. Ça, le Saint-Père le dit indirectement, mais dans son encyclique. Et je crois ça très juste dans notre monde d'aujourd'hui. Seul le théologien peut dire, le métaphysicien peut découvrir l'existence de Dieu. Alors, les cinq voies de saint Thomas qu'il donne dans la somme théologique, il ne faut pas l'oublier, il donne ça dans la somme théologique. Donc il les donne en théologien. Le théologien qui, avant de commencer sa théologie, montre est-ce que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Et dans un seul article, saint Thomas donne les cinq voies. Dans un seul article. Or, pour saint Thomas, l'unité, c'est l'article. Et bêtement, je l'ai fait aussi, bêtement, nous avons divisé première voie, seconde voie, et on a fait des thèses sur la première voie. On l'a séparée des cinq. Vous voyez ? Là, il y a un problème, je crois, très important pour le théologien. Pendant des siècles, on a fait des thèses sur la prima via, sur la seconda via, sur la tertia via, sur la quarta via, sur la quinta via. On a séparé ce qui n'a de valeur qu'en étant lié à cinq. Voilà, là, il y a une réflexion philosophique que je crois très importante. Et ça me semble d'une très grande évidence. Nous sommes tous d'accord que l'unité chez saint Thomas, c'est l'article. C'est la question. Mais la petite unité, c'est l'article. L'article se tient. Dans saint Thomas, chaque article se tient. Or, saint Thomas donne dans un seul article les cinq voies. Et les successeurs de saint Thomas ont séparé chaque voie. Réfléchissez là-dessus. Ça vaut la peine. Parce que c'est quand même très important de savoir comment l'intelligence humaine peut affirmer l'existence de Dieu. C'est quand même très important, puisque c'est ça qui, 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 qui délie l'intelligence, qui délie l'intelligence de nécessairement toucher le réel par son toucher. Tandis que quand je découvre l'existence de Dieu au point de vue philosophique, c'est mon intelligence qui a une nouvelle expérience, pas directe, mais indirecte, par la preuve de l'existence de Dieu. Et l'intelligence découvre, j'allais dire, une terre nouvelle. L'intelligence découvre une réalité nouvelle qui est tout. C'est quand même fabuleux, hein, comme découverte. Quand on a découvert les Amériques, hein, on était contents. Mais c'est quelque chose d'infiniment plus grand, découvrir par l'intelligence ce que ma foi me donne tout de suite. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et ça, vous le dites en croyant. Mais vous pouvez et vous devez chercher un Père, puisque l'Église nous le dit, et l'Église répète, tous les pères de l'Église, il y en a un seul, j'ai fait l'enquête, un seul, un petit père, il n'y en a qu'un qui dit que l'intelligence humaine n'est pas capable d'atteindre l'essence de Dieu, mais tous les autres. Et saint Thomas s'est trouvé en face de ça. Tous les pères de l'Église disent que l'intelligence humaine peut découvrir. Ils le disent différemment. C'est du reste très intéressant de voir justement qu'ils le disent différemment. Saint Thomas lui-même, la somme, tout le monde connaît les cinq voies. Mais dans quelle perspective saint Thomas donne ça? Est-ce qu'il le donne dans une perspective métaphysique ou une perspective critique? C'est la grosse question. Les cinq voies. Saint Thomas rappelle les voies de l'existence de Dieu au début son commentaire de l'évangile de Saint Jean. Et il le montre autrement que dans la somme. Parce que là, il est dans une recherche non critique. Et c'est très intéressant de comparer les deux. Ça vaut la peine, ça. Si vous avez un tout petit peu de temps, faire de la métaphysique, faites ça. Regardez dans le prologue du commentaire de saint Jean. Dans le Dente Sensio, œuvre de jeunesse, saint Thomas avait 30 ans. Dans le Dente Sensio, saint Thomas réfléchit là-dessus. Et nous donne peut-être la voie la plus métaphysique. Elle est unique. Il n'y en a pas cinq. Mais prouver qu'il y a un être immobile, que le mouvement n'est pas premier, mais ça ne prouve pas que c'est Dieu. L'immobilité n'est pas la preuve de l'existence de Dieu, n'est pas la propriété de Dieu. Non, mouvement. Ça veut dire tout simplement que le monde physique, s'il n'y avait que le monde physique, uniquement le monde physique, c'est absurde. Affirmer uniquement le monde physique, c'est absurde. Parce que le monde physique n'explique pas son existence. Il ne peut pas exprimer son existence. Le monde physique, c'est le mouvement. Il me montre le mouvement et les divers aspects du mouvement, mais il n'élève pas dessus. Le monde des vivants, peut-il prouver Dieu? Non. Ah, seule l'intelligence. Donc, elle prouve l'existence de Dieu en affirmant l'existence la plus parfaite du monde. Quelle est l'existence la plus parfaite? L'homme, la personne humaine. C'est l'existence la plus parfaite. La personne, elle existe. Or, il faut partir d'une expérience et montrer que cette expérience réclame un être nécessaire. Il n'y a pas beaucoup d'expériences d'existence, d'être existant qui réclame un être nécessaire. Ils réclament un être d'où ils sont venus, d'où ils viennent. L'araignée réclame la mère araignée. Ben, c'est sûr. Mais l'araignée ne réclame pas Dieu. Elle réclame la mère araignée, la mère araignée, la mère araignée, puis vous remontez à l'infini. Donc, vous ne découvrez pas Dieu. Il faut une expérience telle qu'elle exige de poser Dieu. Alors, quelle est l'expérience la plus parfaite que vous faites? Ce n'est pas de monter sur l'Himalaya. C'est sûrement une très grande expérience, mais ce n'est pas la plus grande expérience. Ce n'est pas aller dans la Lune, cosmonaute. Ce n'est pas ça la plus grande expérience. C'est sûrement une expérience très intéressante, mais qui demande tellement de préparatifs qu'un professeur de métaphysique ne peut pas la faire. Aller dans la Lune. Sûrement, si j'avais été dans la Lune, je vous en parlerai longuement. Cette expérience d'être dans un monde autre où la vie n'existe pas. Et là, c'est mortel. Hein. Où la vie n'existe pas. C'est une expérience qui rend fou. C'est vrai. Parce que quand on rencontre rien de vivant, on devient fou. Vous seriez l'unique vivant, et autour de vous, il n'y aurait plus aucun vivant. Je ne sais pas combien de temps vous durerez. Le vivant a besoin de la communication. C'est sûr. L'expérience la plus parfaite que vous pouvez faire, c'est le choix de l'ami. C'est la plus grande expérience que vous pouvez faire. C'est le choix de l'ami. Parce que là, vous touchez l'expérience d'une personne. L'ami, c'est une personne. La personne, c'est un ami. Et vous faites cette expérience mutuelle. C'est curieux. Je me demande si il ne faut pas être à deux pour pouvoir trouver l'essence de Dieu. Tu as mis le couple dès le début. Alors on dit, oui, ah oui, c'est sûr, pour la génération, c'est nécessaire. Ah, mais il n'y a pas que pour ça. C'est nécessaire d'être deux pour prouver l'essence de Dieu. Deux personnes. Et je cherche ça, point de vue métaphysique. J'en suis sûr. Que l'expérience la plus parfaite qu'on a, c'est l'amour, c'est le choix de l'ami. Parce que le choix implique l'expérience. Et si je réfléchis, et si j'analyse, et que je veux analyser cette expérience, je me pose la question, est-il unique, mon ami ? Est-il l'absolu ? Et je suis obligé de reconnaître que mon ami n'est pas l'absolu. Il peut mourir. La grande crainte. Hein. Un ami, il est fragile. Il est merveilleux. Il est étonnant. Il me fait comprendre des tas de choses. Il me révèle à moi-même ce que je suis. Parce que c'est ça que fait l'ami. Il me révèle à moi-même ce que je suis. Personne ne me révèle à moi-même ce que je suis. Tandis que l'ami me révèle à moi-même ce que je suis. Et me révélant à moi-même ce que je suis, il me révèle qu'il y en a un qui existe nécessairement, puisque mon ami existe, et qui est au-dessus de toute amitié, mais qui en est la cause. Et celui-là, il est l'amour infini. Voyez, c'est beaucoup plus proche de saint Augustin d'une certaine manière. Mais ce n'est pas saint Augustin, parce que saint Augustin s'est arrêté à l'amour. On ne doit pas. Il existe. Il est. Et c'est parce qu'il est qu'il pose cet être premier. Je crois que nous devons avoir cette audace de montrer que les cinq voies de saint Thomas, c'est de la critique, et donc on ne peut pas prouver l'existence de Dieu par un mode critique. La critique aboutit toujours à la négation. Et donc je dois dire que je ne peux pas m'arrêter à une réalité existante que j'expérimente. La plus grande réalité que j'expérimente, c'est mon ami. Et mon ami, dans l'amour qu'il a pour moi, dans l'expérience qu'il a pour moi, me montre la limite de cette expérience. Et donc, en tant que cette expérience a quelque chose de très grand, d'unique, il m'oblige de poser quelqu'un, une personne. Voyez, je crois que ce n'est pas par l'être immobile que je touche Dieu, je le touche philosophiquement tout de suite comme une personne. Parce que l'expérience la plus forte et la plus parfaite que je fais de la réalité, c'est l'ami. Je crois que tous ceux qui ont fait l'expérience de l'amitié savent très bien que c'est la plus grande expérience. Le cosmonaute, c'est une expérience négative. Et donc, à ce point de vue-là, terrible. Négative. Un monde qui n'est pas vivant. Ben, la vie, elle est tout le temps là. On l'écrase. On écrase combien de petits animaux tous les jours. Faites-en la somme le soir. Quelque chose d'unique Et ce quelque chose d'unique n'est pas absolu. Mon ami peut mourir. Il peut disparaître. Il est maintenant dans cette expérience. Il est. Et donc, son existence limitée, comme mon existence limitée, appelle un ami dont l'existence est illimitée et première. J'aborde l'existence de Dieu philosophiquement comme une personne. C'est bien ce que dit Aristote, hein. Il aboutit au noesis noeseos. Noesis noeseos. La pensée de la pensée. C'est bien une personne, ça. Et ça te m'a dit que c'est la plus grande chose que l'intelligence humaine peut atteindre. Noesis noeseos. La pensée de la pensée. L'amitié de l'amitié. L'ami de l'ami. J'aborde Dieu et je découvre Dieu comme une personne. Je crois que c'est là la rencontre, hein, la rencontre de la métaphysique et de l'éthique. Est-ce que c'est pas ça la sagesse ? La rencontre de l'éthique, l'éthique à son sommet aboutit à l'amitié. L'amitié est au-delà de la morale. L'amitié est personnelle. La morale, c'est toujours un peu la nature. C'est la nature humaine, parce qu'on fait attention à la notion commune. Je ne peux pas tuer. Parce que je suis moi-même dépendant de mon être et que mon être, je ne le possède pas. Et c'est pour ça que je ne peux pas tuer. Mon existence, je l'ai reçue. Je peux écarter tout ce que j'ai acquis, mais je ne peux pas supprimer ce que je n'ai pas acquis et qui m'est donné naturellement. Parce qu'en le supprimant, je le supprime au nom de quelque chose qui se rébelle de ce qu'il a reçu. Et donc, c'est le primat de la négation. L'existence, la personne humaine se dévoile à moi dans le choix amical, le véritable choix amical, une personne qui est un ami. Et le choix de l'ami est la plus grande expérience de l'être que j'ai. Dans l'ami, j'expérimente l'être d'une façon unique. Mon ami est l'être le plus parfait que j'ai rencontré. Parce que dès qu'il n'est plus l'être parfait, le plus parfait que j'ai rencontré, c'est plus mon ami. C'est la rigueur de l'amitié, ça. Et dans cette expérience, je pose l'existence d'un être, d'une personne, je découvre nécessairement l'être premier comme une personne. Vous voyez que c'est important de voir cela. C'est pour ça que philosophiquement, c'est par la personne que j'atteins Dieu. Et j'atteins Dieu comme un être qui est source de mon amitié. Source ultime de mon amitié, qui est donc intelligent et amour volontaire. Si je découvre Dieu tout de suite comme une personne, je découvre Dieu en même temps comme celui qui est mon créateur. Cet être premier est tout puissant. Il est créateur de mon âme. Voyez, c'est par le créateur direct de moi-même, de ce qu'il y a de plus important en moi, que je découvre Dieu. Je ne peux pas le découvrir autrement. Et au point de vue philosophique, je me suis posé toujours la question, quelle est la signature de Dieu ? Nous sommes une œuvre d'art, hein ? C'est évident. Quelle est la signature de Dieu, du Créateur ? Il faut se poser la question, parce que pour découvrir l'existence de Dieu, il faut découvrir sa signature. Est-ce que la signature de Dieu, elle est sur votre corps ? Est-ce que c'est votre nez qui montre la signature de Dieu ? Est-ce que ce sont vos yeux ? Non. Parce que l'animal a un nez, l'animal a des yeux, et ce n'est pas la signature de Dieu, c'est la signature de son père et de sa mère, hein. Ou du grand-père. Ça remonte jusqu'à 7 générations, paraît-il. Donc, il faut remonter loin. Mais ce n'est pas Dieu. Ça ne remonte pas à Dieu directement. Vous n'allez pas dire, vous avez des yeux qui sont semblables à Dieu, mais Dieu n'a pas Dieu. Le Christ, il a ressemblé à sa mère quant à son corps. Il a ressemblé à sa mère. Et sa mère, elle a ressemblé à qui ? À ses parents. Mais c'est passé entre deux une purification. Il y a un abîme entre Marie et ses parents. Il y a une coupure, hein. Pas dire qu'elle ressemble. Et ça devait intriguer les gens. Ah, cette petite, tiens. On est déjà intrigués de temps en temps, n'est-ce pas, de voir des gens d'une très grande finesse et à côté d'eux, leurs parents, pas du tout la même finesse. Alors, on dit, ah, l'évolution. Donc, la personne divine, Dieu créateur, la signature de Dieu, elle est dans mon âme. Et dans l'amour d'amitié, mon âme s'exprime comme elle ne s'est jamais exprimée. Elle s'exprime en rencontrant l'autre, dans l'amour. Et j'ai réveillé l'amour de l'autre. Et l'autre, en m'aimant, me fait comprendre qu'il y a en moi quelque chose d'aimable, capable d'éveiller l'amour. C'est merveilleux, ça. Dans l'amour d'amitié, on reçoit plus que ce qu'on donne. Il réveille en moi la signature de Dieu. Il faudrait écrire un livre comme ça. Mon ami m'a révélé Dieu. Mon ami me réveille la signature de Dieu. Je crois que c'est très utile aujourd'hui. Puisque combien de personnes rejettent Dieu et nous devons nous leur montrer où est la signature de Dieu pour qu'ils soient obligés de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes et que l'ami, mais que l'ami a réveillé ça. Il ne l'a pas créé, il l'a réveillé. Parce que c'est extraordinaire. Comme Dieu est un Dieu caché. Hein. Et ça, le philosophe doit le comprendre. C'est un Dieu caché. Quand il est venu nous visiter, il aurait pu se manifester. Il s'est caché derrière la nature humaine. Dieu s'est caché dans le Christ, derrière la nature humaine. Et il a fallu le révéler à Marie. Et personne n'a su distinguer dans l'enfant Jésus la signature de Dieu. Tantôt, elle était fameuse. Combien Dieu est un Dieu caché. Et donc, la révélation de Dieu en nous, pour le philosophe, c'est pas étonnant que ce soit si difficile. Dieu là a des manières de vivre totalement différentes de nous. Nous dès que nous faisons quelque chose de bien, tam tam, nous voulons montrer, et nous montrons à tout le monde. Dès que nous faisons quelque chose de bien, nous le proclamons. Dieu, plus il fait quelque chose de grand, plus il est caché.